Bien, bonsoir tout le monde. Bon lundi. Bienvenue aux amateurs de sport. Un week-end chaud, un week-end qui vous a plu. Un week-end où on a beaucoup parlé, bien sûr, de la nouvelle avec laquelle on a entrepris, qu'on a entrepris le week-end, c'est-à-dire la transaction Galchenyuk-Domi vendredi soir. Évidemment que, bon, c'est la première fois que je vais avoir l'occasion de m'exprimer ici à l'antenne là-dessus. Je vais le faire. On va entendre Danny Dubé. Benoît Brunet sera avec nous aussi. Philippe Quentin, bien sûr, nous fera part de ses commentaires. Mais dans les nouvelles d'hockey, il y en a une encore plus récente. Barry Trotz, qui indique aux Caps de Washington qu'il ne sera pas là la saison prochaine, n'ayant pas accepté l'offre de prolongation de contrat que les Capitals lui ont soumise. Aussi au menu ce soir, Simon Keane, un des héros du week-end, avec sa victoire décisive, sans équivoque, contre Adam Braidwood samedi à Shawinigan. On revient sur le US Open avec Dave Lévesque. Les Alouettes qui s'inclinent. Je me pinçais pour être sûr que je rêvais pas en début de match samedi quand ils ont vraiment démarré sur des chapeaux de roue, sauf qu'ils n'ont pas pu maintenir sur cette lancée offensive-là. Bruno Eppel sera avec nous. Aussi, en toute fin d'émission, Hugues Léger et Assun Camara nous parlent de leur nouveau magazine Victoire. Ça va parler de culture foot. Et Assun va nous parler, entre autres, d'un entretien privilégié avec Didier Drogba sur lequel il a appris des choses qu'il ne savait même pas en jouant avec. C'est pas mal intéressant. Mais d'entrée de jeu, accueillons tout de suite Danny Dubé avant de retrouver Arcadio en Russie pour les matchs de Coupe du Monde aujourd'hui. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Bon, puisque la nouvelle, là, chronologiquement parlant, la plus récente dans le monde du hockey, c'est Trotz. Je vais te faire commenter celle-là. Barry Trotz qui indique aux Caps, il était en fin de contrat, dit, je reviens pas. On comprend un peu pourquoi quand on réalise par le Washington Times qu'il ne gagnait que 1,5 million de dollars par année, ce qui est un petit salaire comparativement à des entraîneurs ailleurs dans la Ligue à Montréal et Toronto et d'autres places.
Oui, mais en même temps, quand tu regardes le parcours, lui, il a entrepris sa dernière saison comme dirait l'autre, avec pas de contrat. C'était sa dernière année de contrat. Alors, je pense que c'est un peu un retour de l'ascenseur. Lui envoie le message, bon, oui, l'aspect salarial, mais je pense qu'il aurait souhaité avoir un petit peu plus de soutien de la part des Capitals de Washington. C'est-à-dire qu'on lui démontre la confiance avant que la saison s'amorce, ou en tout cas, tout au moins durant la saison, ce qui n'a pas été le cas. Alors, aujourd'hui, ben, il est titulaire, il a gagné une coupe cette année, ce qui est dans le siège du conducteur. Il dit, savez-vous quoi? Vous n'étiez pas prêt à me signer durant la saison, pendant qu'il n'y avait rien de garanti. Je pense que je peux attendre.
Il y a sûrement de ça dans sa décision. En même temps, s'ils étaient revenus avec une offre et qu'ils l'avaient placé dans la même situation de rémunération que les mieux placés dans la Ligue, penses-tu qu'il y aurait peut-être repensé à deux fois? Ou...
Il y a peut-être des choses que lui sait qu'on ne sait pas, en fait.
C'est sûr. C'est sûr.
Et que lui se dit, on a réussi quelque chose qu'on ne réussira plus là-bas ou que moi, je ne pourrais plus réussir.
J'y ai pensé, ça aussi, oui.
Moi, j'ai pressé tout ce que j'avais à presser. Je peux pas aller plus loin avec ce groupe-là. Et ça, c'est de l'humilité. Puis en même temps, c'est de la...
Lucidité.
De la lucidité, exactement. Puis c'est du réalisme en disant, moi, j'ai ma recette. Tous les coachs ont leur recette. C'est normal. Comme les patrons l'ont. À un moment donné, tu arrives à échéance, toi aussi. Là, t'es pas... Donc, lui, écoute, il se place dans une situation où il devient disponible. Il y a peut-être des enjeux aussi familiaux qu'on connaît pas. Des fois, là, c'est vrai, là, tu sais, c'est pas toujours la chose que tu mets en avant-plan pour te sortir de l'équation, la famille. Des fois, c'est vrai, là. Puis lui, une situation quand même un peu particulière dans sa famille. Donc, lui, peut-être qu'il dit, oui, là, j'ai besoin de passer du temps avec ma famille, avec mon épouse, mes enfants, tout ça.
Pour l'instant, seulement les Islanders sans entraîneur. On verra s'il pourrait aboutir là ou s'il va prendre quelques mois, peut-être même une saison complète de congé. Entre-temps, nous autres, ici à Montréal, évidemment, depuis le début du week-end, ça jase de la transaction effectuée par Marc Bergevin, des explications qu'il a fournies samedi. Galchenyuk versus Max Domi. Moi, spontanément, je ne sais pas comment tu as réagi spontanément en apprenant la transaction en commençant mon week-end vendredi soir. Je pense que la première réaction, c'est davantage le constat de la déception du fait que l'association Galchenyuk-Montréal n'a pas donné ce qu'on espérait qu'elle donne. Parce qu'on en a espéré des choses de Galchenyuk. Je me rappelle, je ne sais pas combien de débuts d'année, on se disait, si Galchenyuk est clos cette année, tu sais, il y avait le potentiel de changer l'allure des choses. Il ne l'a pas fait. Comment tu as accueilli la transaction?
Bien, j'ai accueilli la transaction, pas surpris, mais déçu.
Du retour ou qu'on abdique?
Du retour.
Ah, du retour, OK.
Du retour, oui. Mais parce que, tu sais, tu peux pas... À un moment donné, là, si tu l'aimes pas, le joueur, c'est ton droit, là. Tu l'aimes pas. Mais tu dois combler un besoin. Moi, je me souviens très bien que Marc Bergevin a parlé... On change pas 4,30 sous pour une pièce, l'expression vient de chez nous. Tu sais, à un moment donné, il faut, quand on fait une transaction, il faut avancer, il faut régler des problèmes. Alors, je pense que Galchenyuk, moi, je m'attendais à le voir échanger contre un joueur de centre naturel.
Mm-hmm.
Ou échanger contre un défenseur qui avait le potentiel et l'envergure de jouer avec un gars comme Shea Weber, parce que quand même, je pense que quand on regarde Galchenyuk dans sa cohorte, là, c'est quand même en 2012, c'est quand même un des bons joueurs de cette année-là au niveau du repêchage. Alors après ça, là, il y a plusieurs éléments qu'on va discuter ensemble, mais comme ça, ouais, là, d'entrée de jeu, là, oui.
C'est bon, donc on va le décortiquer de bien des façons, Danny, parce que je trouve ça intéressant. Donc sur le retour, moi, ma façon de le voir, c'est sûr qu'il y a une part de déception là, qui est beaucoup, beaucoup due au fait que la déception que ça n'ait pas abouti sur ce que ça devait aboutir. Mais après ça, quand tu analyses le retour, et je pense que ça va prendre le portrait global du puzzle que Marc Bergevin tente d'assembler pour la prochaine saison avant de comprendre, parce que j'ai pas l'impression que Domi vient remplir ce que Galchenyuk remplissait comme rôle. Et donc, on dépense un petit peu moins d'argent parce que Domi coûte moins cher. Et on continue de se forger une marge de manœuvre pour aller chercher les gars de talent. Ce que Galchenyuk devait nous amener, les centres qu'on recherche, donc soit par le marché de l'autonomie ou encore les transactions possibles avec Pacioretty, je m'attends à ce qu'on les comble, ces besoins-là. Et je sens dans ton propos et celui de beaucoup d'amateurs qu'il y a encore la déception du fait que ça n'ait pas servi à aller chercher un centre. Mais ça va venir. Non?
Ben, je sais pas.
Il faut que ça vienne.
Ben, écoute,
ça peut pas.
En fait, moi, je vais te dire ceci. On analyse toujours la transaction à partir du meilleur joueur. On se dit lequel des deux est le meilleur joueur. Lequel des deux. Là, on dit, tu sais, beaucoup d'intangibles avec Max Domi. Dans le sens des intangibles, c'est une bonne personne, qualité humaine, c'est un bagarreur dans le sens, c'est un déterminé, c'est un acharné, c'est un gars qui il y a de la hargne dans son jeu.
Il n'y en a pas trop de ça ici.
C'est parfait. C'est tout correct, là.
Mais c'est la comparaison avec Galchenyuk.
Mais en fait, c'est que ce que tu offres en échange, c'est tangible. C'est un marqueur naturel qui potentiellement peut atteindre encore une fois au moins les 25 buts et sur une base régulière. Et potentiellement les 30 buts. Alors, moi, je pense qu'entre les deux, quand tu penses qu'en 222 matchs, Max Domi n'a pas atteint 30 buts à 5-5, ça fait peur.
Ben, mais disons que ça fait peur. Et c'est pour ça que j'espère, j'ose croire, sinon ça ne tient pas la route, que l'argent qui reste et le gars qui reste à échanger, parce que j'ai pas l'impression que Pacioretty n'est encore pour bien longtemps, va servir à combler les besoins qui ne le sont pas encore. C'est une reconfiguration complète de son alignement. Il commence, en tout cas.
Mais tu sais, Mario, là, si on arrête de regarder là, la stratégie, le ci, le ça, froidement, là, tu laisses partir un très bon joueur qui a des... qui n'a pas la bonne attitude, puis qui dérange, parce que tu l'aimes pas ben, tu sais. Puis c'est un mal-aimé, là. On va se le dire, là, en bon Québécois, c'est un mal-aimé. Il tombe ses nerfs. Fait qu'il finit par te tomber assez ses nerfs que tu vois plus rien d'autre que ses défauts.
C'est sûr.
Fait que là, tu dis, lui, là, il restera pas chez nous, on gagnera pas avec lui. T'as le droit de penser ça, là. Mais moi, je vais te donner, là, quelques noms comme ça de mal-aimés. Puis je te demande, aujourd'hui, est-ce que tu prendrais les mal-aimés? Tyler Seguin, évidemment.
Oui.
Dougie Hamilton à la défense. Taylor Hall. Brent Burns qui est sorti sa tête du Wild du Minnesota parce qu'il disait, lui, on ne va jamais rien faire avec lui. Puis qui est Subban. Même à l'époque, rappelle-toi de Joe Thornton. Des joueurs comme ça, mal aimés dans leur organisation, parce que l'attitude, le comportement, ça fonctionnait pas. Et aujourd'hui, je regarde les champions de la Coupe Stanley, s'il y a une équipe qui a été patiente avec ses joueurs, puis on a pu dire, hey, y a-tu assez, nous autres, là? Ils les ont gardés, ils ont été patients, ils ont bâti, ils ont créé de la stabilité. Moi, je te dis ceci.
Ils n'ont pas été patients avec tout le monde, par exemple, mais ils ont été patients probablement avec les bons.
Avec le noyau, avec un noyau. Ils se sont bâtis un noyau qui n'était pas parfait, puis ils se sont bâtis avec un noyau. Et je pense que si tu veux, à un moment donné, t'améliorer, il faut que tu crées de la stabilité. Je ne suis pas en train de dire que Galchenyuk, c'est un gars parfait.
Non.
La seule affaire que je dis, c'est que...
Mais permets-moi juste de t'accrocher au passage là, parce que le pitch de vente de l'organisation, c'est le statu quo, il n'y en aura pas. Fait que de vouloir de la stabilité avec un club qui est dans la cave, c'est sûr, ça ne veut pas dire que c'est de la faute à Galchenyuk, qu'on s'entend
là-dessus. Tu n'as pas trouvé que Galchenyuk avait progressé, toi, l'année passée, dans son attitude, son comportement, sa relation avec la presse, comment il s'est comporté dans la deuxième portion de la saison l'année passée? Tu n'as pas trouvé ça, toi?
Bien, écoute, on n'a pas accès à toute l'information. Fait qu'il y a sûrement des informations ou des réalités de coulisses qui continuent de faire en sorte que si renversement d'attitude il y a eu, c'est pas suffisant aux yeux de ceux qui le dirigent et qui ont accès à toute l'info. Fait que je suis obligé de spéculer sur cette question-là, Danny, mais sur ce que je vois sur la glace, honnêtement, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant progressé que ça. Je trouve qu'il y a pas une vision géniale, je trouve qu'il rate le net très souvent, je trouve qu'il fait toujours une feinte de trop, mais ça le dit, il y a encore du potentiel, là. Je serais pas surpris qu'en score 35...
Je vais te dire, là, le joueur, il en a marqué 108, celui qu'on reçoit, il en a marqué 36.
Oui, c'est sûr.
Les gens disent, « Oui, mais lui, il marque quand ça compte pas. »
Ça se peut-tu que Domi en fasse marquer davantage autour de lui que Galchenyuk le faisait?
Domi, les buts qu'il a marqués ou les passes qu'il a faites, ça comptait à quel moment en Arizona?
On peut pas vraiment comparer les deux joueurs. La transaction nous oblige à le faire.
Non, je compare les environnements.
Ben écoute, il joue avec Clayton Keller en partie.
Non, mais il joue avec une équipe tout croche. Ben une équipe qui n'a pas participé aux séries pendant 3 ans.
Oui.
Il a eu la chance de se mettre en valeur. C'était quand même, là, je veux dire...
Non, mais ils ont échangé un problème, eux autres aussi. Max Domi, si c'était leur meilleur joueur, ils le regardaient. Alors, ce sont quoi les problèmes de Domi?
Tu dis les problèmes de Domi... Moi, j'aime Max Domi. Moi, je suis sûr que c'est un joueur qui va contribuer. Mais il va contribuer comme Andrew Shaw. Il ne contribuera pas comme Galchenyuk. Il va amener de l'énergie. C'est un joueur combatif. J'aime ça, des joueurs comme ça. Mais des joueurs comme ça, c'est des joueurs complémentaires, Mario.
As-tu l'impression que Marc Bergevin a pris quelque chose dans les dernières années à la lumière de cette transaction-là?
J'en ai aucune idée. C'est pas mon problème. Le problème, c'est ce que Marc apprend, ça lui appartient, comment il voit les choses. Puis je le respecte, là. Moi, je suis pas en train de chialer après Marc Bergevin. Je regarde la transaction, puis je me dis, si l'équipe de hockey du Canadien de Montréal pense que Max Domi va améliorer l'équipe, il faut absolument qu'il y ait d'autres choses qui s'en viennent. Là, parce que,
ben c'est sûr.
Parce que le départ...
C'est le premier geste dans l'alignement. Le premier geste concret.
Non, mais t'as une minute, Mario. Tu sais aussi bien que moi que c'est plus facile de laisser partir Galchenyuk que d'en récupérer un. Là,
c'est sûr.
Ailleurs. Même si c'est un problème ailleurs. Là, en récupérer un de même, là, c'est difficile.
Écoute, c'est vraiment difficile. Penses-tu que tu comprends ce que lui voit de bon pour son équipe dans cette transaction-là?
Ce que je comprends, c'est qu'il veut avoir de l'intensité, du caractère, de l'attitude, etc., etc. Et eux égardent des efforts de Galchenyuk. Galchenyuk, c'est une cause perdue. Galchenyuk, là, écoute, je te le dis, là.
S'il valait si cher que ça, il tombait, aurait eu plus.
Ben, c'est exactement ce qu'il va te dire. Mais est-ce qu'il vaut... La meilleure valeur, la meilleure valeur, elle est où? Elle est chez vous ou à l'extérieur? Tu sais, l'expression « les meilleures transactions, c'est celles que tu fais pas, patati patata ». Bon, dans ce cas-ci, ça va être intéressant parce que il va s'en aller dans un environnement où les chances que son équipe gagne sont très minces. Les chances qu'ils ont de l'impact, que lui a de l'impact, sont meilleures. C'est très difficile pour un gars qui passe d'un marché non traditionnel. Des places là, où le monde va walker, mais ils savent même, tu sais, ils ont-tu bien joué, ils regardent le pointage, ils savent pas trop, ils connaissent pas trop le hockey. Même les médias, tu sais, c'est bien, là, mais c'est pas comme ici. Là, quand un joueur n'est pas en mesure de faire la différence ou d'avoir de l'impact dans un environnement où c'est non traditionnel, comment tu peux l'amener dans un marché comme Montréal et que tout à coup, ça devienne un joueur d'impact?
Par contre, le sentiment j'ai d'urgence, souvent vu... la pression,
moi, je pense que c'est un peu de la pensée magique.
Ben, ça arrive. Il y a des gens qui, quand ils sont sous constante exposition, ils ne peuvent pas tricher, Danny. Tu peux pas tricher.
Je vais te demander de me trouver des joueurs qui n'ont pas eu d'impact dans les marchés non traditionnels qui sont arrivés dans les marchés comme... Vancouver, Montréal, Toronto, Calgary, Edmonton, puis tout d'un coup, c'est devenu des joueurs extraordinaires. On a vu souvent l'inverse, par exemple.
Oui, bien écoute, il faudrait que j'analyse ça comme il faut, que j'analyse des noms. Mais tu sais, dans le cas de Galchenyuk, je pense que, puis j'ai pas à parler pour lui, mais dans le cas de Bergevin, lui, il voit pas un gars à qui il est prêt à donner dans 2 ans 7 millions de dollars par année.
Dans deux ans?
Oui, je sais, je suis d'accord, mais je fais juste essayer de dire ce que je pense, que je perçois. Mm-hmm. Et peut-être qu'il voit Galchenyuk comme un gars qui fera jamais la différence dans un rôle crucial pour faire gagner ou perdre une équipe. Peut-être qu'il le voit comme un Kessel qui, s'il est chanceux, va tomber à bonne place au bon moment et peut-être faire la différence dans un rôle de profondeur d'une bonne équipe, mais ils vont s'en débarrasser quand il ne fera plus l'affaire, comme Kessel actuellement est disponible chez les Pingouins.
Il fait maintenant partie de la longue liste des mal-aimés. Voyons ce que ça va donner.
Ah, oh, c'est sûr. Hey, good. Veux pas la crédibilité.
On n'a pas de joueur de centre et on n'a pas de défenseur encore.
Ça doit s'en venir, j'ose croire, mais la crédibilité des dirigeants n'est pas ce qu'elle était quand ils sont arrivés. Alors, c'est pour ça que le doute va durer plus longtemps. Danny, je te remercie beaucoup. Et on se reparle cette semaine. Et un petit peu plus tard, Benoît Brunet également. Et au retour, Coupe du Monde.